L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Qu'en faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde.
Deux ingénieurs reconvertis, un charmant petit village héraulté, mille histoires inouïes en Occitanie et ailleurs. Voici la recette pour une belle maison d'édition.
Il était une fois, dans l'ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane, il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum boum boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'Épluche Libre. Nous recevons aujourd'hui Hubert Delobette, éditeur, fondateur de la maison d'édition Papillon Rouge. Bonjour monsieur Delobette.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes avec nous au téléphone, est-ce que vous m'entendez bien ?
Je vous entends bien.
Comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, en pleine forme, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque j'ai 60 ans pile.
Eh oui, joyeux anniversaire.
Voilà, je change de décimale sur mon âge et bon, ça fait un peu drôle, mais bon écoutez, c'est la vie.
C'est la vie et c'est une très belle occasion de se réjouir ensemble en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation en un jour si particulier.
Je vous en prie.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, de votre formation initiale et de comment vous êtes devenu éditeur ?
Alors j'ai un parcours un peu atypique dans le monde du livre puisqu'en fait au départ j'ai démarré mon activité professionnelle en étant chercheur dans le domaine de la santé. J'ai un diplôme d'ingénieur en biotechnologie, donc ma spécialité c'était le génie génétique et j'ai travaillé donc dans diverses entreprises pharmaceutiques. Voilà. Puis, en parallèle, je commençais à écrire des articles scientifiques dans des revues. Mm-hmm. L'écriture me plaisait beaucoup. J'ai commencé à écrire quelques livres pour d'autres maisons d'édition sur des thèmes un peu plus scientifiques. Et à l'âge de 35 ans, j'ai eu envie de changer de métier et de me recentrer sur l'univers des lettres, après celui de la science, en créant une maison d'édition. Je sentais qu'il y avait aussi peut-être un certain manque dans la région Languedoc. Enfin, à l'époque, c'était Languedoc-Roussillon, maintenant c'est Occitanie, mais il y avait un besoin de livres sur l'histoire, le patrimoine de notre région. Et voilà, j'ai créé donc cette maison d'édition en 2002, donc il y a 23 ans. Puis ma femme qui était œnologue m'a rejoint dans l'aventure et voilà, on est tous les deux maintenant à piloter cette maison d'édition dans un petit village de l'Hérault à Villeverac.
Est-ce que vous-même vous êtes de la région, vous êtes occitan?
Oui. Alors on est tous les deux de la région, donc bon, ma femme est de Villeverac et moi en fait je suis originaire d'un petit village du nord de Montpellier qui s'appelle La Boissière. Un petit village et en fait ma mère avait fait la généalogie de notre famille et puis on est présent donc à La Boissière au moins depuis 1653, je crois que c'est la date à laquelle elle est remontée, donc vraiment une vieille famille de héroltaise.
Oui, une famille bien enracinée en tout cas. Voilà. Tout comme votre maison d'édition, donc Papillon Rouge, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on monte une maison d'édition, comment on la bâtit?
Il faut choisir un thème, je pense, il ne faut pas partir tout azimut. Bon, moi, comme je le disais donc précédemment, j'ai investi un peu le champ des domaines de l'histoire, du patrimoine autour de la région. D'autres peuvent choisir le thème de la fiction en faisant du roman, d'autres le livre jeunesse. Une fois qu'on s'est fixé un peu une ligne éditoriale, voilà, et ensuite, au départ, ben, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut trouver des auteurs. Ça, c'est peut-être pas encore le plus difficile, mais il faut aussi après trouver un canal, un diffuseur, hein, un diffuseur-distributeur, c'est-à-dire une entreprise qui suit vos livres et qui les diffuse ensuite dans les librairies, nouer de contact avec les libraires. Voilà, il y a toute une série d'étapes à franchir et bon, c'est pas facile au départ, il faut s'accrocher.
Aujourd'hui, votre maison d'édition est quand même connue et reconnue dans la région. Vous avez grand nombre de collections, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, notamment collection Femmes d'exception, Histoires inouïes, Patrimoine en Languedoc. Quelle est l'histoire de ce catalogue éditorial ?
Comme vous le disiez, on a pas mal de titres au catalogue, hein. On en a 220 aujourd'hui. Et on l'a donc structuré en collection. La première, c'était donc les histoires inouïes, qui s'appelaient au départ Histoires vraies, donc des séries d'histoires extraordinaires mais véridiques, qui se sont passées donc dans les différentes régions françaises. Mm-hmm. On avait commencé bien évidemment par l'Occitanie. Ensuite, on a développé la collection Les femmes d'exception. Moi, j'avais vraiment envie de mettre en relief l'histoire de femmes qui avaient eu des destins un peu hors du commun et qui avait été un peu oublié par l'histoire, hein, à l'époque, mise un peu évidemment sous le boisseau des hommes qui les regardaient un peu de haut. Et voilà, donc on a lancé cette collection, Les femmes d'exception. On en est à pratiquement, je crois, 4000 pages, c'est-à-dire il y a plus de 200 portraits, de 300 portraits, sur des thèmes très variés, des aventurières, des scientifiques, des romancières. Mmh. Voilà, ensuite on a développé d'autres collections, une collection qui s'appelle « Ces Français qui ont fait l'histoire », donc qui présente dans chaque région, des fois des villes, des départements, pareil, donc des femmes et des hommes qui ont eu des destinées hors du commun, hein, qui ont façonné l'histoire de du lieu où ils ont habité. Et ensuite d'autres collections, alors sur la peinture, sur les sciences, on a quelques livres aussi sur le sport. Voilà, on essaie de hiérarchiser un peu notre collection, notre maison d'édition à travers diverses collections.
D'accord, très bien. En tout cas, une grande variété, je pense qu'il y en a pour à peu près tous les lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez publié ?
Oui, je me souviens du premier livre qui s'appelle « Trésor retrouvé de la Garrigue ». Et on a eu de la chance parce que ce livre a beaucoup plu et ça nous a conforté dans l'idée de développer la maison d'édition. Alors « Trésor retrouvé de la Garrigue », ça évoque tout ce que les hommes puisaient autrefois dans la Garrigue pour se loger, se nourrir, s'habiller, s'outiller, se soigner. Toutes les ressources qu'on trouve dans cet espace naturel. Et voilà, c'est comme j'habite dans la Garrigue, j'avais mes grands-parents qui me racontaient voilà ce qu'ils récoltaient dans la Garrigue pour comme plante médicinale. On avait dans la famille des gens qui faisaient du charbon de bois. Donc il y a de l'encre aussi avec sous les feuilles des chênes, il y a des petits excroissances qu'on ramasse à l'époque pour en faire de l'encre. Enfin, mm-hmm. il y a vraiment tout un tas de ressources et on les a listées avec des belles photos sur cet ouvrage et il a vraiment beaucoup plu et bien marché en librairie.
Donc, il a vraiment beaucoup plu, bien fonctionné. Ça, c'est un travail, comme vous le disiez, de diffusion et de distribution. Comment vous avez réussi à vous faire connaître en tant qu'éditeur au départ ?
Effectivement, vous touchez du doigt quelque chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire au départ trouver un distributeur, diffuseur. Et il se trouve que ce livre, donc « Trésor retrouvé de la Garrigue », qui a eu pas mal de presse, d'articles, on a mis ça. Et puis bon, il s'était bien vendu à l'époque, hein, on en avait vendu 5000 exemplaires là, assez rapidement. Donc ça, le diffuseur que j'avais contacté a vu qu'il y avait... il y a eu un certain succès avec cet ouvrage et nous a fait confiance pour les suivants.
D'accord.
Donc c'est grâce à ce premier titre qu'on a pu mettre un pas dans ce monde pas toujours facile de l'édition et de la diffusion des livres.
Oui, 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 tout à fait. Et le rapport au libraire, la relation à la librairie, comment vous vivez ça ?
on a pris notre petit bâton de pèlerin et on est allé voir voilà les différents libraires. Alors parlant de notre projet, de ce livre sur la garrigue que nous avions sortir, et ensuite alors montrant un peu le calendrier éditorial des ouvrages qu'on allait sortir plus tard.
Oui, ça c'est quelque chose que vous faites encore.
Oui, c'est quelque chose qu'on fait encore, mais c'est vrai que c'est indispensable de très en amont de présenter au libraire les ouvrages qui vont sortir dans les mois, les années qui vont suivre.
D'accord. Alors, je crois savoir que vous avez choisi une chanson pour partager vos goûts musicaux avec nos auditeurs. Je vous propose d'écouter le titre que vous avez choisi.
On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie, enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, qu'on me donne le jour. J'aime la nuit pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir.
Allume les micros, vous écoutez L'Épluche Livre. Nous sommes en compagnie de Hubert Delobette, éditeur de la maison Papillon Rouge, donc maison occitane, qui a choisi ce titre que je n'avais pas écouté depuis des années, qui fait écho à beaucoup de souvenirs d'enfance, Pourquoi ce choix donc de l'envie de Johnny Hallyday, Monsieur de Lobette?
Je sais pas, j'ai toujours aimé Johnny Hallyday, je suis allé le voir plusieurs fois en concert. Peut-être parce que finalement il me touche assez ce personnage, parce qu'il bon, il était très célèbre, très connu, mais il cachait au fond de lui beaucoup de grande fragilité, très 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 angoissé, très quelquefois souvent assez malheureux. Et moi aussi j'ai un caractère assez angoissé, alors peut-être je me retrouve aussi un peu dans ce personnage. Voilà, j'ai aimé ses chansons, qui sont très 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 enjouées, très rythmées, ça voilà, ouais. ça donne la pêche.
Ah ouais, 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 ça réveille. Merci voilà. Beaucoup, merci pour ce beau partage. Nous allons nous intéresser un petit peu plus dans cette seconde partie d'émission sur le processus créatif, la manière dont on crée un livre. Donc on va peut-être prendre l'exemple, si vous avez bon souvenir, donc de Trésors retrouvés. Le premier livre donc, que vous avez édité, dont vous aviez parlé en partie une de l'émission. Quelle a été l'histoire? Alors, bien sûr, il y a un livre, il y a un auteur, il y a un sujet. Et comment ça se déroule ensuite? Peut-être qu'il y a une recette, peut-être que c'est le bazar.
Alors, c'est vrai qu'il y a... Il y a pratiquement une dizaine d'étapes. Une fois, j'ai calculé entre... l'idée de livre et ensuite son arrivée sur la table du libraire. Et ces 10 étapes, c'est pas facile à les gérer. Je prends l'exemple souvent de... Nous, on fait des métiers qui sont quand même artisanaux. Si on compare par rapport à un boulanger... Voilà, un exemple parmi d'autres, le boulanger, il achète sa farine, et il la transforme et ensuite voilà, il fait du pain, il le vend directement à son client, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Un éditeur, alors il y en a plusieurs, la première, il faut trouver donc un auteur, mm-hmm. ensuite quelquefois un photographe, il faut ensuite, une fois que le texte est fini, avoir un correcteur qui corrige le texte, mm-hmm. ensuite entre le texte corrigé et la photo, il faut quelqu'un, un graphiste qui vous mette en page le livre, donc il y a la mise en page.
Oui.
Ensuite, il faut l'imprimer, donc là c'est pareil, trouver un imprimeur, il y a souvent de bon nombre d'éditeurs avec différentes caractéristiques de papier qu'il faut connaître, donc c'est pas toujours facile. Une fois que vous avez imprimé le livre, il faut entrer en contact avec un diffuseur, donc une entreprise qui avec des salariés spécialisés qui vont voir les libraires et qui leur proposent donc des ouvrages,
voilà,
un distributeur,
promotion.
C'est-à-dire que voilà, il y a une entreprise aussi qui se charge d'envoyer les livres chez les libraires, de gérer les retours,
voilà,
puisque en fait nous faisons un métier un peu particulier où on a la possibilité de les libraires ont la possibilité de retourner les livres qu'ils ne vendent pas. Voilà. Ensuite, il y a l'étape du libraire, donc le libraire qui vend les ouvrages. Il y a une autre étape aussi, c'est celle du journaliste, de la presse, hein, puisqu'il faut faire connaître les ouvrages, donc entrer en contact avec des médias. Et le dernier chaînon, c'est le lecteur, voilà, qu'il faut séduire le lecteur, hein, et qui vous fait des remarques, qui vous écrit, qui quelquefois vous engueule, que vous voyez sur des salons, qui vous complimente aussi. Voilà, donc tout un tas d'étapes qui sont assez... sont pas faciles à gérer dans la vie d'un livre.
Voilà, qui sont des étapes clés de la vie d'un livre, donc du processus de fabrication. Mais alors, je vais peut-être préciser un petit peu ma question. Quel est le processus de création au regard de vous, votre expertise d'éditeur?
C'est-à-dire le choix de mes livres?
Voilà, le choix de vos livres, la manière dont vous accompagnez les auteurs, votre travail, puisque vous-même, je présume, hein, c'est ce que j'entends moi, dans le milieu, vous relisez, vous apportez des corrections, vous-même, oui. Vous apportez des idées. Comment ça se passe pour vous, ce côté-là, vraiment la création?
Oui.
Et dans quelle ambiance aussi, si on peut dévoiler tous ces secrets éditoriaux?
Oui, bien sûr. Alors, moi... Déjà, on fait ça de manière très 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 simple. Moi, on se tutoie avec tous les auteurs très rapidement. Enfin, moi, je leur demande. Hein, on s'appelle par nos prénoms, les tutoies. On fait ça de manière agréable et conviviale, mm-hmm. parce qu'on est dans un monde qui de manière générale, hein, qui est pas facile. Alors, s'il faut commencer déjà à travailler de manière un peu rigide, c'est pas agréable. Alors ensuite, il y a quelquefois des auteurs qui proposent des livres où moi je démarche des auteurs. Dans le cadre de nos collections, pour enclencher un livre, je vais ensuite les voir, ou eux viennent nous voir au sein de la maison d'édition. Voilà, et on discute un peu sur si c'est par exemple je sais pas, prenons un exemple, un livre sur la peinture, je leur dis, voilà, cette collection de la peinture, je veux, on va mettre plutôt que des tableaux relativement contemporains, 19e, 20e siècle, mais il faut quand même mettre un peu de texte explicatif parce que qui accompagne les tableaux. Donc on fait un travail de préalable assez développé. Oui. Voilà, et ensuite donc l'auteur prépare son texte, nous le soumet, nous l'envoie par mail, c'est quelque chose d'assez classique. Donc ensuite moi je fais une première lecture et on retravaille ensemble avec l'auteur. Je lui dis voilà, il faudrait peut-être plus accentuer, écrire par exemple au présent. Moi je préfère qu'on écrive souvent au présent plutôt que passé, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus enlevé. Oui, ce genre de procédé. Voilà, et ensuite une fois que on a fait tout ça, on fait la mise en page, là c'est pareil, on travaille souvent avec des auteurs de manière assez étroite, on leur propose des photos, sur la couverture, on leur propose une couverture. Ça c'est le côté le plus difficile parce que chacun y voit à son idée un peu préconçue sur la couverture. Donc c'est ça qu'il faut, au bout d'un moment il faut trancher. Et ensuite on travaille pareil de manière assez étroite lors de la promotion du livre, c'est-à-dire que je leur propose d'aller voir des médias, de faire des interviews, de faire des conférences dans des bibliothèques, des médiathèques, des signatures dans les salons du livre, dans les librairies. Donc voilà, on travaille de manière assez étroite et écoutez, jusqu'à présent, ça s'est toujours vraiment très très bien passé avec nos auteurs.
Super. Voilà. Est-ce que vous diriez que dans chaque livre que vous éditez, il y a une part de vous-même ?
Oui, au fond, il y a une part de moi-même parce que j'ai insufflé peut-être très modestement une ligne éditoriale, une façon de concevoir le livre, enfin, en tout cas des propositions.
Oui, il y a une proximité avec votre propre créativité, votre vie intérieure, je présume.
Oui, parce qu'au fond, chaque éditeur a sa sensibilité. Je vous prends un exemple, pour en revenir, là, on a sorti le livre sur la peinture, là, qui s'appelle La vie des Occitans sous le pinceau des peintres. Et en fait, on a choisi beaucoup de tableaux très, très colorés. Et alors, il y a des gens qui me disent, mais c'est marrant, dans votre collection, vos différentes collections sur la peinture, vos différents ouvrages, c'est toujours très coloré, très lumineux, il n'y a pas de noir et blanc, et c'est vrai que moi, ça correspond à ma sensibilité, c'est-à-dire j'aime beaucoup les couleurs, enfin, voilà, quand c'est gai, vif, lumineux, alors forcément, notre sensibilité transparaît dans les ouvrages.
Et c'est ce qu'on entend quand on entend le nom de votre maison, peut-être Papillon Rouge, pour la couleur.
Oui, vous avez
le nom,
c'est ça. C'est vrai, la couleur du... On avait choisi ce titre parce que on aime bien, avec ma femme, les papillons, parce que ça annonce le printemps, la chaleur, et puis l'idée de ce petit papillon qui vole de manière un peu capricieuse, cabotine, là, d'une fleur à l'autre, qui va se nourrir de différents nectars. C'est... Et puis, il y a très peu de papillons rouges. Paradoxalement,
c'est précieux.
On raconte peu cette couleur chez les lépidoptères, donc voilà, c'était une idée marrante.
C'est une très belle histoire. Pour finir cette émission, et étant donné que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, si tant est qu'elles aient des pieds, mais en tout cas les dates commencent à se rapprocher, est-ce que vous pourriez nous donner deux conseils de lecture, deux livres à avoir au pied du sapin ?
Au sein de notre maison d'édition ?
Ou pas, c'est à vous de voir.
Ou pas. Bon, alors je vais en donner un au sein de notre maison d'édition, il y a un qui est en dehors. Au sein de notre maison d'édition, on a sorti un livre qui s'appelle Roland Bonaparte, le prince savant, qui est un ouvrage qui raconte pour la première fois, et il n'y avait jamais eu d'ouvrage sur ce personnage de Roland Bonaparte, qui était un petit-neveu de l'empereur Napoléon, mais qui avait été rejeté par la famille napoléonienne, pour tout un tas de raisons, et qui s'est réfugié dans les sciences, et qui a créé l'herbier le plus grand du monde. Voilà. Donc c'est une histoire vraiment assez incroyable, et c'est un ouvrage passionnant, là, sur 300 pages, qui raconte la vie de ce scientifique, de ce personnage original.
Oui, en effet, hors du commun.
Oui, vraiment hors du commun, et puis on est content parce qu'on a on a beaucoup de presse, et puis il a été sélectionné, il est dans la sélection finale du prix de la biographie du Point, hein, du journal Le Point.
Super,
donc,
félicitations.
Voilà.
Vous serez donc au festival de la biographie Nîmois.
Voilà, exactement.
Super,
exactement.
Bravo, beaucoup de projecteurs.
Ouais.
Et le second titre.
En dehors, il y a un auteur moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Murakami, qui est un auteur japonais, qui est connu. Hein, qui raconte chaque fois toujours de très beaux romans, de très belles histoires. Donc c'est son dernier livre, dont le nom m'échappe là sur le coup. Mais je recommande.
La cité aux murs invisibles, quelque chose comme ça.
Voilà, c'est ça.
Ou aux murs incertains, je ne sais plus.
Exactement. Je l'ai lu tout récemment, mais comme j'en lis beaucoup, à force j'oublie. Ou alors c'est les 60 ans, c'est l'âge. Je commence à perdre la mémoire, mais c'est ça. C'est un nom comme ça. Il est très le dernier est très chouette, c'est très très sensible. Là, c'est l'histoire d'une bibliothécaire à qui il arrive toute cette histoire assez originale. Donc voilà, Murakami, c'est un grand auteur que je recommande.
C'est un auteur qui vous a accompagné pendant longtemps ou que vous découvrez récemment?
J'ai toujours aimé cet auteur qui est assez discret, assez secret, qui n'ont jamais d'interview, mais... qui a une écriture un peu originale, une écriture très onirique. Voilà, vous partez souvent dans des mondes un peu parallèles, bizarres, mais je trouve ça assez des histoires assez enchanteresses.
Oui. Ok. Vous aimez aussi peut-être le petit côté poétique?
Oui, c'est ça. Oui, exactement. Vous avez raison. C'est le côté, je n'ai pas employé ce mot, mais c'est vraiment tout
pardon.
À fait ça.
Hein. Pardon, parce que vous n'aimez pas.
C'est très poétique.
C'est très poétique. Bon, je ne voulais pas vous forcer la main.
Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je cherchais le mot, mais il y a beaucoup de poésie dans les pages des romans de Murakami.
Très bien. Merci beaucoup encore, Monsieur Delobette, de vous être prêté au jeu de cette discussion à la librairie. Enfin, à la librairie, vous allez y passer bientôt, à la librairie d'ailleurs, mais...
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Merci, chers auditeurs, chères auditrices de L'Épluche Livre, et je vous dis à très bientôt.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle, et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.